Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Ben Aziza et Hefziba Chassiba Bat Esther. Ronan Mevracha. Ok, messieurs, je ne vais rien dire de nouveau au niveau thoraïque, mais je vais rappeler des choses et je veux bien mettre l'accent à quel point les choses deviennent actuelles. J'ai dit, c'est là, j'ai dit tous ces cours, tout ce que je veux dire, j'ai déjà dit dans les cours, dit, redit, re-redit. Mais on doit comprendre que les choses avancent. Se préparer et pas rester nonchalant, tout va bien dans le meilleur des mondes, pépère, il faut se préparer. On doit qu'on ne dise pas après, on ne nous a rien dit, alors on vous dit. Le calendrier des derniers jours, lundi 13 mai, 4 bateaux civils sabotés en port d'Arabie Saoudite, 2 bateaux saoudiens, 1 bateau émirati et 1 bateau norvégien. Il semblerait que c'est les Iraniens qui ont fait ce sabotage. Mardi 14 mai, un oléoduc bombardé par des drones. Ce sont les Houthis, mais les Houthis sont soutenus et programmés par les Iraniens. Mercredi 15 mai, l'Amérique demande aux ressortissants américains de quitter l'Irak. Danger. Jeudi 16 mai, tous les jours, jeudi 16 mai, le major Hossein Salami, qui a été nommé à la tête des forces de garde révolutionnaires le mois dernier, annonce, nous sommes au bord d'une confrontation à grande échelle avec l'ennemi. Ce moment de l'histoire, c'est parce que l'ennemi est entré dans les champs de la confrontation avec nous, avec toutes les capacités possibles, est le moment le plus décisif de la révolution islamique. Shabbat, 18 mai. Les États-Unis mettent en garde les compagnies aériennes contre un risque dans l'espace aérien du Golfe Persique. Ne passez pas au-dessus du Golfe Persique, on peut vous descendre par erreur. Des gens pourraient vous descendre par erreur. Aujourd'hui, un Katyusha atterrit pas trop loin de l'ambassade américaine à Bagdad. Trump réagit. Si l'Iran veut se battre, ça sera sa fin officielle. Il conclut, plus jamais de menaces à l'encontre des États-Unis. Et réaction il y a quelques minutes de l'Iran, si les États-Unis nous touchent, en 30 minutes, on rase Israël, Hachem Ishmor, à faire les poumailles, de la terre dans leur bouche, Bezrat Hachem. Je pense que nous sommes très proches d'une grande confrontation. Est-ce qu'il y aura la guerre ou pas? Je l'ignore. Un certain Kedar, qui est un des plus grands islamologues ici en Israël, on sait un Bar-Ilan, le professeur Kedar, qui était au service d'enseignement auparavant, a dit qu'il n'y a aucune autre échappatoire que la guerre. Il peut se tromper, ce n'est pas le bon Dieu, mais les choses avancent à vitesse fulgurante. Alors, il y a un Tosfot, les rabbins francophones de France. Au début du traité Avodah Zarah, la première page raconte dans Avodah Zarah qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah, le met dans ses bras, il dit tous ceux qui se sont occupés de Torah durant l'histoire, qui viennent et recevoir leur mérite. Tous les peuples s'agglutinent à la porte du bon Dieu, et on fait rentrer le premier, Rome. Rome, c'est Rome et toute la situation, on va dire, occidentale. Par extension, on peut dire que c'est l'Amérique aujourd'hui, qui ressemble à Rome encore au niveau de beaucoup de... Ils ont des sénateurs, comme à Rome, d'accord. Ils ont l'aigle romaine, etc. C'est le fer de lance de l'Occident. Rome rentre et dit, on a aidé la Torah. Oui, comment? Ben, on a fait des marchés, on a fait des ponts, enfin, toute l'infrastructure logistique, économique, etc. Dieu leur répond, espèce de crétin, tout ce que vous avez fait, c'est fait pour vous, pas pour la Torah. Raus, dehors. Allez, au suivant, la Perse rentre. Même discours exactement. Même réponse de Dieu, dehors. Rentre tous les peuples. Ça, c'est une bretta. C'est un texte qui a été écrit il y a 1800 ans. La Gemara, 200 ans plus tard, pose la question. Pourquoi dans cette bretta, c'est écrit d'abord sont rentrés les Romains, ensuite les Perses, ensuite tous les peuples? Répond la Gemara, parce que les deux premiers peuples, Rome et la Perse, vont durer jusqu'à l'époque messianique. Jusqu'à l'époque messianique, jusqu'à ce que le Messie se dévoile, il y aura Rome, donc l'Amérique, on va dire, et la Perse. La Perse et l'Iran. Tosfot, les rabbins du Moyen-Âge, posent la question, comment tu dis une chose pareille? C'est écrit dans le traité Yoma. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ne citent pas tout. Dans le traité Yoma, page 10, c'est écrit comme ça, qu'il y aura une guerre entre Rome et la Perse. Qui va gagner? Premier avis, dit c'est la Perse. Pourquoi? C'est normal. Le roi de Perse, Cyrus, Koresh, il a initié la construction du deuxième temple. Il a même payé pour cela. Et les Romains ont détruit le temple. Donc c'est normal que les constructeurs vainquent les destructeurs. Après, un autre avis qui dit non, c'est les Romains qui vont gagner. La Gemara dit comment les Romains, que les destructeurs vont vaincre les constructeurs, c'est pas logique. La Gemara donne deux réponses. Un, Xerat Meler, c'est un décret du roi, incompréhensible. Deux, les Perses, bien qu'ils aient construit le temple de Jérusalem, ils ont néanmoins détruit beaucoup de petits temples, des synagogues dans leur pays. Tosfot ne prend en considération que le deuxième avis. Et pose la question, comment tu me dis ici dans Avodah Zarah que la Rome et la Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique? C'est faux, c'est marqué dans le traité de Yoma, page 10. Atida Parash, aussi le texte exactement en hébreu. Atida Parash, Shetipol, Beyad Romi. Dans le futur, la Perse tombera dans les mains de Rome, de l'Amérique. Réponse du Tosfot, ce sera juste avant que Mashiach vienne. Quand les Maradis vont durer jusqu'à Mashiach, c'est juste avant. Comment c'est juste avant? Je ne sais pas. En tout cas, on doit arriver à un moment de l'histoire, et je crois que ça n'est jamais arrivé de l'histoire, qu'il y ait une confrontation entre Rome et la Perse. Que je sache de mes souvenirs d'histoire au collège, la Rome, la Perse, aucun rapport. On y est. On y est. Il faut comprendre. Je dis ça souvent, mais je répète, on y est. Regardez à quelle allure. On peut aller dormir ce soir, on ne sait pas ce qu'il y aura demain matin. Les guerres aux Juifs, c'est super rapide. On y est. Et juste après, ça mourut juxtaposé vient Mashiach. C'est quoi juxtaposé? Peut-être un jour, une semaine, peut-être un mois, deux mois, pas beaucoup plus. Je crois qu'on peut aller acheter les habits de fête et surtout préparer nos habits spirituels. Être un minimum présentable devant Mashiach. Dieu dira un dévoilement extraordinaire de Dieu. Bien sûr, il faut beaucoup, beaucoup de prières, beaucoup, beaucoup de tchouva, parce que la plateforme iranienne proche d'Israël, c'est Hezbollah. Hezbollah en français, d'accord? 150 000 missiles, ce sont des très bons soldats. Ils ont des missiles super perfectionnés. Évidemment, on a de quoi répondre. La vraie réponse, c'est Hachem. Parce qu'on ne pourra jamais, même avec aujourd'hui Gaza, avec une attaque de ces missiles nuls, d'accord, c'est des missiles de très mauvaise qualité, il y a quand même eu 4 morts dans le sud, en une journée, c'est terrible. Là, on parle du Hezbollah, 150 000 missiles, des très bons missiles, donc il faut vraiment une aide d'Hachem énorme. Je pense, j'espère, c'est écrit, qu'à la fin des temps, lorsque les ennemis d'Israël verront qu'ils n'ont pas le choix, que leur sentence est destinée à la mort, quoi, c'est fini, ils vont se dire, ok, on crève, mais pas tout seul, Israël aussi partira aussi avec nous. Hachem Ishmor, ça correspond tout à fait à l'Iran. L'Iran, j'ai fait un cours là-dessus, il semblerait que c'est l'Amalek moderne. D'abord, BHL, il y a un an et quelques mois, a dévoilé qu'il y a encore, jusqu'en 1935, l'Iran, BHL, c'est Bernard-Henri Lévy, un grand penseur juif, français, pas trop religieux, si on peut dire. En tout cas, il a dit que les Perses sont allés voir, une délégation perse allait voir Adolf Hitler en 1935, et ils ont vérifié, ils ont vu qu'ils provenaient de la même source, aryenne. Et on sait que Hitler, c'est Amalek. Donc la valeur numérique d'Adolf Hitler, c'est Esav. Esav, le grand-père de Amalek. D'accord? C'est la même source exactement. Il leur a demandé, changez s'il vous plaît votre nom du pays, à la place de Perse, Iran. Iran, c'est un nom arien, ça se ressemble. La Gemara, dans le traité Brachot, page 8, dit « Les Perses sont réservés et invités en enfer. » Réservés et invités en enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Gemara ne dit pas là-bas, on ne voit pas le rapport. On comprend très bien. Pourquoi? Amalek, ils ont une haine terrible d'Israël. On n'a aucun rapport avec la Perse, avec l'Iran. On est à 2000 km. On ne prend ni leur pétrole, ni leur terre, ni rien du tout. On ne les embête pas. Ils ont dit la mission numéro 1 de la révolution islamique, l'anéantissement d'Israël. Ils vont maintenant faire la bombe atomique. Ils font comme ça au monde entier, à Trump, d'accord? Comme ça, ils le font. Comme ça, on fera la bombe atomique. Mais pourquoi tu veux tellement une bombe atomique? Israël. Ça, c'est Amalek. Amalek, il est prêt à mourir, mais au moins que Israël disparaisse. Comme Hitler durant la guerre. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des débats terribles entre Hitler et ses généraux. Les généraux disent qu'il faut amener immédiatement avec des trains des renforts sur le front russe. Hitler dit priorité, les trains. Les juifs dans les camps. Et ils amènent les juifs dans les camps, et là, 6 millions de juifs partent, il n'y aura plus d'Allemagne, terminée. Mais au moins, il a réussi, il crève, il est terminé, il se suicide, mais au moins, j'ai réussi à donner un bon coup dans les juifs. C'est ça exactement l'Iran. Donc, ils sont en train de perdre. Trump leur a dit il y a quelque temps, venez avec moi, faisons la paix, arrêtez votre programme, je vous aiderai. L'Amérique va aider un pays, mais ça va, tu as des millions de milliards. Ils sont en train maintenant, ils sont en situation économique lamentable, terrible. Ils vont maintenant perdre aussi, s'il y a une guerre maintenant, ça va être terrible aussi au niveau militaire, physique, d'accord? Mais ils continuent droit dans le mur, ça c'est Amalek. Amalek vient de très loin pour attaquer Israël dans le désert, et ils essuient une défaite terrible. Tout cela correspond exactement au principe de fonctionnement de Amalek. Alors on y est? Maintenant, c'est intéressant de voir que ce n'est pas la seule source. Il y a beaucoup de sources. Le rêve de Nabucodonosor. Nabucodonosor fait un rêve. Il voit une très grande statue. On voit la tête en or, la poitrine en argent, le ventre en airain, en cuivre, les jambes en fer, le bout des jambes, moitié fer, moitié argile. Une petite pierre, venue sans intervention d'une main humaine, touche le bout des pieds et toute la grande statue s'écroule. Il ne sait pas ce que c'est, il invite tous ses devins, les devins ne savent pas ce qu'il sait, il s'énerve contre eux. À la fin, Daniel lui dit, écoutez, laissez-moi 24 heures, je reviens avec le rêve et son interprétation. Daniel revient, lui dit le rêve, parce que j'ai oublié de dire que Nabucodonosor n'a pas dit ce qu'il avait rêvé. Il voulait que les devins devinent cela, ils n'ont pas réussi. Daniel lui dit, voici ton rêve. Nabucodonosor lui dit, banco extraordinaire, je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Il lui dit, Dieu t'a montré l'histoire. Toi, tu es la tête d'or. En fait, Dieu, il régnait à Jérusalem, était le maître du monde. Toi, Nabucodonosor, tu es le premier empereur qui a un empire aussi grand dans l'histoire, du moins dans la région. Tu es la tête de cette statue qui représente la force physique, militaire durant l'histoire. La tête d'or, c'est l'empire babylonien. Ensuite, il y aura les Perses, c'est la poitrine d'argent. Ensuite, il y aura les Grecs, le ventre d'airain. Ensuite, les Occidentaux, Rome, le fer, les jambes de fer. Et à la fin, il y aura deux pôles. Le pôle oriental, c'est la poterie, c'est l'argile, c'est Ismaël, le monde arabe. Et l'autre jambe, le fer, ça sera le pôle occidental, qui sont toujours en bagarre. Vient une petite pierre sur le peuple d'Israël, à la fin des temps, sans intervention d'une main humaine, la force de Dieu, qui touche le bout des pieds, c'est la fin de l'histoire, toute la force physique est détruite, et il y aura la force spirituelle, cette petite pierre grandit, devient une montagne énorme qui remplit le monde entier. Tout le monde entier connaîtra Hachem dans Hachem très 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 bientôt. Dans le verset numéro 45 de chapitre 2 de Daniel, c'est décrit comme ça. La petite pierre a touché le bout des pieds et ont été détruits. L'airain, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, pose la question. C'est pas logique. Tu aurais dû commencer depuis tout en haut. Or, argent, airain, fer, argile, ou du bas en haut, argile, fer, airain, argent, or. Tu commences par le ventre, airain, tu descends fer, tu descends argile, après argent et or tout en haut. Pas logique. Nous dit le Malbim, il y a 200 ans environ, pour dire comment ça aura lieu. Il y aura d'abord un pôle, un groupe qui sera les deux premiers. Le ventre et les jambes, donc le ventre c'est l'airain, c'est la graisse, et les jambes c'est le fer, c'est la Grèce et Rome, la culture gréco-latine. L'Occident, qui vont attaquer les pieds. Les pieds d'argile, c'est quoi? L'argile, c'est le monde arabe, ismaélique. D'accord? Mais Ismaël, c'est beaucoup de gens. Ça va depuis le Maroc jusqu'aux Philippines. C'est tous des pratiquants de l'islam. Alors, il dit non, deux peuples. La tête et la tête d'or et la poitrine d'argent. L'or, c'est l'Irak. Babylone, c'est l'Irak. Et la poitrine, c'est la Perse, l'Iran actuel. Il dit là-bas qu'il y aura donc une union des forces occidentales pour attaquer les Arabes, mais qui? D'abord l'Irak, enfin il dit pas d'abord, il dit l'Irak et l'Iran. L'Irak, c'est l'histoire. Les deux Bush, père et fils, attaquent l'Irak. À l'époque, Bush, en 2009, c'est où l'Express ou le Point annonce, raconte que durant la deuxième guerre du Golfe, 2002, Bush appelle, c'était à l'époque Chirac, Chirac lui dit, viens, joins-toi à moi, je fais Gog ou Magog, je suis en train de faire Gog ou Magog en Orient, au Moyen-Orient. C'est quoi Gog ou Magog? Et des Magogs, ce type-là, d'accord, il est allé voir les curés, le Rav Citruc, demander, ils l'ont expliqué. Il a pris pour un fou. Et il n'était pas si fou que ça, c'est exactement ce qui s'est passé, d'accord. Les guerres de Gog ou Magog, ça commence déjà comme ça. Donc on a déjà vu dans cette partie du rêve que l'Occident, 21 forces alliées occidentales attaquent l'Irak. Qu'est-ce qui reste maintenant? L'Iran. Et on y est. On est au bord d'une guerre. Si l'Amérique attaque l'Iran, nous sommes en train de vivre ces prophéties. C'est extraordinaire. Tel Tosfot ici dans la Avodah Zarah, tu as le rêve de Daniel, tu as dans Traité Sanhedrin, page 98, ça décrète A et B. Je vous fais en cours parce que je ne vais pas faire trop long. Là, Barabbi Shabin Kisma, il dit, et Rachel explique là-bas, tout au haut de la page, que l'Iran va conquérir l'Irak. Et l'Irak, ça remplit les armées iraniennes pour venir attaquer Israël. Quand j'ai lu cette Gemara il y a 40 ans, d'accord, c'est impossible. Il y avait Saddam Hussein en Irak, Hafez al-Assad, après son fils Bachar el-Assad en Syrie, super puissant. Entre l'Iran et Israël, c'est impossible. Qu'est-ce qui fait que je vous recours? Mon cher ami, c'est écrit dans la Gemara. ils doivent rentrer jusqu'au bord d'Israël. Alors déblayer, ils commencent l'Irak, déblayer avec les deux frères, enfin le père et fils Bush. Après une guerre civile terrible en Syrie, plus rien, no man's land. Vide. Qui rentre? L'Iran. Netanyahou crie, on ne laissera pas l'Iran arriver au bord d'Israël. Ils y sont. Ils y sont. La Gemara se réalise devant nos yeux. Dernière chose extraordinaire. S'il y a une confrontation, une guerre physique entre l'Amérique et l'Iran, ça sera où? Ça sera entre l'Irak et l'Iran. D'accord? L'Irak et l'Iran sont frontaliers. Puis à un moment, quand ça descend, un moment, il y a un autre pays qui se met ici au milieu, juste au bord de la mer du Golfe Persique, il y a le Koweït. Koweït, c'est du côté américain. Juste en face du Koweït, tu as un fleuve qui passe là-bas, c'est l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate deviennent qu'un seul fleuve, c'est l'embouchure, d'accord, et arrive dans le Golfe Persique. Là-bas, il y a une bande d'Irak qui fait 50 km, pas plus. Et la deuxième plus grande ville d'Irak s'appelle Basra. On chante Shabbat. D'Or Pourra, Betor Batsra, n'est-ce pas? C'est quoi Batsra? Cette ville-là. D'où ça vient cette histoire d'Or Pourra? Écrase Pourra les vendanges dans Batsra. C'est une prophétie du prophète Yeshayahu, Isaïe, qui nous dit, qui parle de la fin. La Géoula. Les premiers versets. Quel est celui qui vient d'Edom, qui arrive de Batsra, les vêtements teints de rouge? C'est moi qui parle le langage de la justice et suis puissant pour sauver. C'est Dieu. Pourquoi cette couleur rouge à ton vêtement? On pose la question. Pourquoi tes habits sont-ils comme ceux du vendangeur qui foule le pressoir? C'est ça qu'on chante. Il vient de Batsra, les habits rouges du pressoir. Et Dieu répond. C'est que j'ai foulé une cuvée à moi tout seul. J'ai fait une cuvée de vin et j'ai écrasé comme ça. Et dans les nations, personne n'était avec moi. Et je les ai pressurisés dans ma colère, écrasés sur mes vêtements et mes habits en sont tous souillés. Hachem dit, hein, il y aura un combat là-bas terrible, plein de sang. Ça éclabousse sur les habits d'Hachem en quelque sorte. Et il vient là-bas, comment c'est écrit? Il vient d'Edom qui arrive de Batsra, les vêtements teints de rouge. Il vient de Batsra. Edom, qui ça peut être? Ça peut être l'Amérique, ça peut être aussi la Perse. Vu que j'ai dit que la Perse, c'est Amalek, Amalek c'est Edom aussi. On ne sait pas très bien qui c'est ce Edom ici. Mais en tout cas, d'après les textes et d'après la logique des choses, s'il y a une confrontation, ça sera là-bas que ça se passera. Dans toute la région, mais la grande ville, elle est là-bas. Donc, messieurs, tout ce que j'ai dit maintenant sont des choses qui sont archi connues. Je viens simplement rappeler, réfléchir, la mémoire, regarder les textes, regarder la réalité. Il n'y a pas photo. Il faut se réveiller, mettre à Tachem, acheter les habits, comme j'ai dit, et faire tchouva, se renforcer. L'amour entre les gens, le chesed. L'amour entre les gens, le chesed, pas de machloket, pas de dispute, dans les familles disputes, dans les amis disputes, fini, terminé. Ma chère, viens, tu vas être en dispute avec ton voisin, avec ton cousin, avec ta belle-mère. Dai, suffit, gamin, nous. Faire tchouva sur les yeux, sur les mauvaises pensées, étudier, vers Tachem, très bientôt, j'espère. C'est que je me trompe toujours. J'ai fait un cours aussi puissant en 2008, en 1998. Avant mon mariage, j'ai annoncé à ma fiancée, venez réappliquer à Pessah, ma chère vient. Ils sont tous venus, la grand-mère, le oncle, tout le monde est venu. Mais une fois, j'aurais raison. Noé, 120 ans, il a construit la Teva, l'arche. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu amène un déluge. C'est la blague du siècle. Tout le monde se moquait, le vieux pépé, il est en train de faire son machin, il y croit son déluge. Un jour, il a eu raison. Alors moi, ce n'est pas encore 120 ans, je ne pense pas que ça sera, on ne va pas attendre 120 ans pour cela. En tout cas, je ne sais pas quand ça sera, les choses avancent bigrement, rapidement, ça peut être d'un moment à l'autre, mais j'espère que c'est extrêmement bientôt. Je vais encore vous dire une petite date, on peut se tromper évidemment, mais c'est sympa quand même. Il y a un rapport entre l'histoire de Yaakov Avinu et notre histoire. C'est marqué, c'est Avos et Manabanim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Yaakov Avinu, il a tué 14 ans dans l'Yeshiva de Shem Ve'Ever. Et après, il est parti en Galoute 20 ans chez Lavan. Après, il revient. Je pense qu'il y a un rapport entre cela et l'histoire du peuple juif. 14 ans correspondrait à 1400 ans de la présence des juifs en terre d'Israël avec les deux temples, Shem ve'Ever, premier et deuxième temple. Plus ensuite, 20 ans d'exil, on est sorti, 2000 ans, ça fait bientôt 2000 ans qu'on est en exil. Combien de temps exactement? Cette année, à Tisha B'Av, ça sera 1950 ans. Tant qu'on est à 1949, ce n'est pas encore 20 siècles. Il y a un principe qui dit « roubo que culo », la majorité, c'est comme tout. Donc il faut 1150, encore une minute, on a déjà la majorité, et Bezrat Hachem, ma chère, peut venir, Bezrat Hachem, quand, je ne sais pas, j'espère avant Tisha B'Av ou à Tisha B'Av, le 15 Av, c'est marqué, c'est une très très grande fête, on ne comprend pas tellement pourquoi, toutes sortes de raisons qui sont dites, mais bon, c'est pas, c'est marqué, il n'y a pas eu de fête aussi grande au peuple d'Israël que le 15 Av et Yom Kippour. Sinon, peut-être plus tard, peut-être que ça va aller lentement, c'est marqué, le Gaon de Vilna a dit au nom de Tikkun Zohar, qu'à Rosh Hashanah, il y aura la fin des ennemis d'Hachem. Donc, quand ça sera, je ne sais pas, il y a plusieurs options, préparons-nous. Hachem, un bon été, plein de joie, plein de bonheur. J'espère pas trop avec des sirènes, pas trop des missiles. Qu'Hachem fasse en sorte que nos ennemis disparaissent avant qu'ils puissent dire quoi. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.